M.
Le goût de M.
M. Le magazine du Monde présente Le goût de M. Un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût cette semaine? Une histoire de fantômes, d'images fantômes, celles qui peuplent les photographies de l'artiste italien Paolo Roversi depuis 50 ans. Des images qui, comme une signature, se reconnaissent au premier regard, avec leur noir et blanc aux tonalités douces, leur couleur parfois éclairée à la bougie, leur présence-absence. Qu'il travaille à la chambre ou au Polaroid, la grande affaire de Paolo Roversi, c'est le portrait, la relation qui se noue entre lui et le modèle. Les plus célèbres de ce monde ont foulé le plancher de son studio, Naomi, Kate, Claudia, Laetitia, ou bien sûr Kristen Owen, qu'il a abondamment photographié. Une œuvre à la beauté singulière qui a conquis les plus grandes maisons de mode, les Alaïa, Yamamoto ou Rei Kawakubo de Comme des Garçons, et que l'on peut actuellement redécouvrir et jusqu'au 14 juillet dans une splendide exposition au Palais Galliera à Paris. Alors pour parler de son goût, de ses inspirations, de son enfance à Ravenne, on a retrouvé Paolo à son studio dans le sud du 14e arrondissement de Paris, à deux pas de la Porte d'Orléans, une petite rue sur la gauche. Un immeuble à la belle architecture moderniste, on y est.
Bonjour, c'est bien bonjour. Ici?
Oui, si vous voulez. Dites-moi, Paolo, on est où ici?
Dans mon studio.
Ouais, où ça?
Nous sommes dans mon studio, rue Paul Fort, dans le 14e à Paris.
C'est un espace qui vous ressemble ici?
Absolument, oui. Ça fait 30 ans que j'habite ici.
Ouais.
Et donc, j'habite ici, pardon, que je photographie ici. J'habite pas, mais c'est comme si j'habitais. Je suis là tous les jours, pratiquement, travailler.
Vous diriez que ça ressemble à quoi, ici?
Ben, un atelier d'artiste, parce qu'il y a ces grandes fenêtres, vous voyez, sur la droite, d'où rentre la lumière du Nord, la très belle lumière du Nord, qui c'est la lumière des peintres. Il a été construit, cet immeuble, en 1930,
ouais.
Fait construire par un peintre, qui est justement, donc c'est un atelier d'artiste.
Donc avec une belle lumière.
Avec une très très belle lumière, oui.
On a suivi Paolo jusqu'au premier étage, à gauche son bureau, à droite son studio, une pièce au mur sombre et à la très belle lumière du Nord. On s'est installé autour d'une petite table, en face de nous des appareils photos, des tirages. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
Ben, c'était bonheur, parce que j'ai une enfance très heureuse. Et vraiment, grâce à mes parents, à mes frères et sœurs, j'ai passé une enfance magnifique. Et l'autre mot, c'est le soleil, parce
ouais.
que je suis italien,
ouais.
et donc mon enfance, elle était au soleil. On passait tous les étés sur la plage, pratiquement pieds nus, et c'était merveilleux.
Vous, vous avez grandi à Ravenne, pas loin de la mer, justement.
Oui, c'est ça.
Vous avez grandi dans une maison ou un appartement, ça ressemblait à quoi?
J'ai grandi dans deux endroits. En hiver, pendant la période de l'école, dans un appartement, dans le centre de la ville de Ravenne, dans le centre historique,
ouais.
vraiment près de la place principale. Et en été, l'été commençait vraiment dès la fin de l'école, donc les vacances étaient très longues. Ça commençait en juin jusqu'à fin septembre, début octobre. Et là, on se déplaçait dans une maison au bord de la mer, près de Ravenne, et on passait tout l'été comme ça, pieds nus, à courir sous le sable.
Votre père, il était médecin?
Oui.
Si vous pensez à ses goûts, aux choses qui l'intéressaient dans la vie, vous diriez que c'était quoi?
Son travail. C'était vraiment un médecin qui s'est donné complètement son travail. Et il a fait vraiment son métier comme une mission. D'ailleurs, je dois dire qu'il m'a peut-être manqué un peu comme père, parce qu'il était très absent, toujours dans les hôpitaux, à visiter. Mais comme il dit très bien ma sœur, on ne doit pas se plaindre de ne pas l'avoir eu trop comme papa, parce qu'on l'a partagé avec plein d'autres enfants qu'il a sauvés, qu'il a aidés à guérir et tout.
Oui, il était très occupé. Il lisait beaucoup aussi, non ? Il aimait lire.
Il lisait beaucoup, oui, il lisait énormément.
Oui. Et votre mère aussi, elle aimait lire ?
Oui, oui, ma mère aussi, elle aimait lire. Et c'est ma mère qui m'a transmis les goûts de la beauté, je dirais, des belles choses, de la belle peinture, de la belle musique.
De la poésie aussi, non ?
De la poésie.
Elle récitait des poésies avec vous ?
Oui.
Elle chantait avec vous ?
Tout le temps, oui.
C'était une femme joyeuse ?
Très joyeuse, très positive, oui.
Et ils vous ont transmis quoi, vos parents, justement, dans cette enfance ? La culture, c'était important chez vous ou
Non, pas dans le sens de la culture, vraiment. Ils n'étaient pas des intellectuels, ni l'un ni l'autre. Mais ils avaient un grand respect pour la connaissance, pour la culture et pour l'art. Et mon père aussi, il aimait beaucoup feuilleter dans les peu de temps libre des livres de peinture sur les artistes et tout. Mais ils n'étaient pas des vrais intellectuels.
Alors, j'ai lu que vous, quand vous étiez enfant, à cette époque, vous aviez très peur du noir.
Oui, ça c'est vrai, j'ai encore peur du noir.
C'est vrai ?
Oui.
Et que la première chambre noire que vous avez eue, finalement, c'était dans votre chambre d'enfant, quand vous voyiez passer
j'habitais justement dans l'appartement de Ravel.
Ouais.
On habitait sur une petite place. Et quand j'étais au lit le soir avec la lumière éteinte, par les persiennes qui donnaient sur la place, il rentrait des ombres, comme des fantômes qui se projetaient sur les plafonds, sur les murs. Et ça, c'était ma première lanterne magique, ma première chambre, où j'ai vu ces images comme ça, fantomatiques, et que j'aimais beaucoup quelque part. J'avais un peu peur, mais en même temps, j'aimais, me fascinait.
Ouais.
Et en plus, après, j'ai commencé un peu à m'endormir. Je ne savais plus si c'était rêve, réalité.
Ouais.
C'était tout un mélange comme ça.
Oui, ça a un lien avec votre travail, tout ça.
Enfin, complètement.
Et vous pensez que Ravenne, justement, cette ville à la fois près de la mer, et en même temps, c'est une ville où il y a beaucoup de brouillard aussi, je crois.
Oui, en hiver, beaucoup.
Vous pensez que ce lieu, il a été très important dans la formation de votre goût plus tard ?
Bien sûr, l'apport Ravenne, j'ai l'apport dedans complètement. 100%, et les lumières de Ravenne, les brouillards de Ravenne, je les porte dedans, dans moi, dans mes yeux, dans ma façon de regarder tout le temps. Oui.
M.
Où est-ce qu'on est, Paolo, ici ?
Mais ici, c'est mon studio principal, dans cet petit immeuble. Ça, c'est la pièce principale, c'est comme un petit théâtre. Vous voyez, il y a du parquet, du vieux parquet au sol.
Ouais.
Il y a des murs tapissés avec des vieilles toiles. C'est vraiment mon petit théâtre. Ici, tout peut se passer. Il n'y a pas de temps et pas de saison. C'est un espace complètement libre. Il peut pleuvoir des jours, il peut y avoir le soleil, il peut y avoir la neige en été, le soleil en hiver, c'est...
Donc, c'est qui est
on
venu.
Peut faire la nuit pendant les jours, les jours pendant la nuit. On réinvente le temps, on réinvente l'espace. Comme un théâtre.
C'est votre espace mental.
Voilà.
Qui c'est qui est venu ici ? Beaucoup de gens.
Beaucoup de gens, oui. Beaucoup de gens. Et il a été, oui, pendant toutes ces années, il y a eu des acteurs, des actrices, des mannequins, bien sûr, des stylistes, des gens de la mode... Des gens du cinéma,
Monsieur Alaya,
John Galliano, Ray Kavakubo, et voilà.
Ils sont venus ici, là ? Ils se sont assis ici, là ? Non ?
Oui,
Aussi,
oui, ils sont assis là. Parfois, les studios restent vides comme ça, et on met juste un fond, ou parfois, on construit un décor. Parfois, on a construit des forêts enneigées. Si vous montrez des photos, vous ne croyez pas que c'est ici.
C'est vrai ?
Ah oui, c'est incroyable. Vous ne connaissez pas cet espace.
Ouais. C'est un peu magique, alors. Ouais.
Ah oui, c'est très magique.
Mais Et alors vous, quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous ? Par quoi vous étiez attiré, vous ?
Ben, j'aimais bien jouer.
Au football ?
J'aimais bien jouer au football. J'étais très, très sportif à l'époque.
Ouais.
Au tennis, au football surtout. Oui. Et mes frères aussi étaient passionnés de football. Ils m'ont transmis ce goût pour le football. Et on allait voir les matchs de Bologne, qui était notre équipe préférée et tout. Après, en grandissant, c'est la poésie qui m'intéressait beaucoup.
Oui, dans l'adolescence.
Oui, dans l'adolescence. Et j'ai développé une certaine culture littéraire, surtout.
Oui. Et dans les poètes, aujourd'hui, vous diriez que... Qui c'est qui a été marquant pour vous ? Pétrarque ? Enfin, qui c'est qui a été vraiment...
Pétrarque, Leopardi.
Leopardi, oui.
Oui, et après Montale et Ungaretti. Ouais.
Et ensuite, la littérature, parce que vous avez grandi... à une époque où la Beat Generation est arrivée assez vite.
Ah oui,
ici.
Bien sûr.
Et ça a été important pour vous aussi.
Oui, oui, non, il y avait des écrivains contemporains aussi que j'aimais en Italie, comme Pasolini. Et la Beat Generation, je l'ai découvert en étant à Ravenna. Oui, oui. C'était un rêve. On the road, c'était vraiment une rêverie américaine qui me fascinait.
Oui. Vous avez rencontré certains d'entre eux, d'ailleurs.
Oui, j'ai rencontré Ginsberg. J'ai jamais rencontré Kerouac, malheureusement. J'ai rencontré Ginsberg. Je suis devenu très ami avec Robert Frank, qui était le photographe de la Beat Generation, et qui, lui, avait bien connu Kerouac.
Vous parliez de Pasolini. Je crois que vous l'avez croisé, Pasolini, quand vous étiez adolescent.
À Ravenne, oui.
Oui, oui, oui. Chez sa tante.
Oui, chez sa tante, oui. Qui était ma prof de latin. Oui, oui.
Et il était important pour vous, Pasolini ?
Non, à l'époque, je ne connaissais pas très bien son travail, ni de cinéma, ni de littérature. Mais il me fascinait quand même. J'étais toujours fasciné par les personnages qui allaient un peu... Vous savez, j'étais un petit garçon de Ravenne, qui est une ville de province, où il y avait une vie vraiment vécue dans une famille bourgeoise, parce que le père médecin et la mère s'occupaient des enfants. Donc tout ce qui était un peu... qui cassait un peu ce système... était attirant pour moi, oui. Ouais. Et c'est disant, oui.
Ouais. Antonioni a été très marquant. Justement, vous parliez de Ravenne. Bon, il a tourné Le Désert Rouge.
Oui. Tous les jours, j'étais sur le tournage. J'étais devenu un peu la mascotte de l'équipe. J'étais devenu ami de Monica Vitti, de Carlo De Palma, qui était le directeur de la photographie, d'Antonioni lui-même. Et voilà, et je me suis amusé beaucoup à suivre ce tournage. Mais à l'époque encore, je n'étais pas photographe, donc je n'ai pas profité entièrement de cette...
Vous étiez à l'école, enfin vous alliez
J'étais à l'école, oui. J'ai séché l'école pour aller sur le tournage.
Ah ouais, pas mal.
Quand même.
Mais Antonioni, il a été important dans votre désir ensuite de photographie, non ? Je crois que c'est quand vous avez vu Blow Up que...
Oui, Blow Up, c'était un coup de pouce. Mais la photographie, oui, c'est sûr. Oui.
Parce que jusque-là, on vous avait offert un appareil quand vous étiez très petit, à 8 ans.
Oui.
Et puis, vous faisiez des photos, mais comme ça, des photos de famille.
Oui, je faisais des photos de voyages, des photos
d'amateurs,
des souvenirs, des photos d'amateurs. Oui.
Et quand est-ce que c'est devenu pour vous un désir, finalement, comme une poésie du monde ? Enfin, quand est-ce que c'est devenu...
Il n'y a pas une date. C'est venu un peu petit à petit. Jour après jour, comme ça, photo après photo. Lazare aussi, ça a joué beaucoup dans ma vie, les rencontres. Il n'y a pas eu un déclic fatal.
Non, mais c'est quand vous étiez étudiant, c'est quand vous étiez à Bologne, quand vous aviez une vingtaine d'années, 18-20 ans, que là, vous avez commencé à vous mettre plus sérieusement à la photographie, à créer un studio.
Oui.
Et là, vous pensiez à devenir photographe ou...
Non, jamais décidé de devenir photographe et encore moins de décider de devenir photographe de mode. Tout est arrivé, comme je vous disais, un peu tout seul, comme ça.
Par rencontre,
par rencontre.
Comme un objet qui dérive, comme
voilà,
ça.
Et c'est ça.
Une dérive un peu poétique. Et...
Voilà. Virginia Woolf dit un chemin sans fil. C'est un peu un chemin sans fil.
C'est vous, le fil.
Voilà.
Ouais. Mais vous êtes... du coup, vous aviez monté votre studio de portraits. C'est le portrait qui vous a toujours intéressé, à vous ?
Oui. Mais pour moi, la photographie, c'est toujours un portrait. C'est toujours un portrait, même si c'est un arbre, un paysage, une théière, une tasse. C'est le portrait d'une tasse, d'un arbre. Pour moi, c'est toujours un portrait dans le sens que c'est toujours un face-à-face avec mon sujet. Et direct, une rencontre avec mon sujet, et j'essaie toujours de l'isoler du reste du monde et de le faire devenir le sujet même, le centre du monde. Et donc, c'est toujours ces portraits-là que je cherche. Ouais.
Et alors, la photographie de mode, ou alors vous faites évidemment pas que de la photo de mode, mais ça a été beaucoup de votre travail. C'est arrivé par hasard aussi, ça, vous diriez ?
Oui, oui, c'est arrivé aussi à travers des rencontres. J'ai rencontré des amis qui travaillaient dans la mode. Poppi Moreni, c'était une amie italienne qui travaillait dans la mode et qui m'a fait rencontrer d'autres personnes qui travaillaient dans la mode. Et
Peter Knapp, à l'époque.
Peter Knapp, oui. Exactement. Et ces gens-là m'ont poussé vers le monde de la mode, où j'ai commencé à regarder les magazines et tout. Et tout de suite, j'étais excité en voyant les photos de Helmut Newton, de Guy Bourdin, les grands photographes de l'époque, qui m'ont donné envie d'aller vers cette photo, qui, à mon avis, était très créative, très, très équilibrée, l'imagination. Et voilà, ça me plaisait, ça.
Guy Bourdin, il vous plaisait beaucoup, par exemple ?
Beaucoup.
Oui. Qu'est-ce que vous aimiez chez lui ?
Vous me demandez ce que j'aime chez Guy Bourdin, tout.
Tout.
Il est un photographe génial, avec une imagination géniale. Il a toujours une idée magnifique et il la réalise toujours d'une façon magnifique. Tout j'aime de Guy Bourdin.
Donc il y avait tous ces grands photographes-là quand vous, oui. À l'époque où vous avez commencé. Après, vous avez fait un portfolio pour Dior et puis après, vous avez commencé à travailler pour Yuji Yamamoto. Et il y a eu Raikawa Kubo aussi. Elle était très importante dans votre parcours, non ?
Il a été très important, elle est très importante.
Elle est toujours très importante, oui.
Toujours, oui. Ouais. Parce que c'est une artiste magnifique, Raikawa Kubo. Elle m'a toujours fasciné avec ses collections, avec ses vêtements. Et pour un photographe, c'est très important de collaborer avec des stylistes si créatifs, si inventifs, et donc qui stimulent et qui poussent plus loin mon travail aussi, qui me poussent à me dépasser et à essayer de faire quelque chose de nouveau, de différent et tout.
Vous êtes comme dans cette relation comme ça entre un grand styliste, créateur, il y a un mannequin qui est là aussi, et vous êtes comme un musicien dans cette histoire-là ? Vous interprétez comme quelque chose ou...
Oui, oui, je suis interprète. Je dis toujours que le styliste, le fashion designer, il écrit la partition et moi, je l'interprète.
Alors ici,
et le modèle, c'est un peu l'instrument avec lequel on joue. Ouais.
Et qui varie selon les années, les époques. Comment vous travaillez, vous, qu'on comprenne votre style à vous ? Enfin, vos photos, elles sont très connues, mais je crois que la façon dont vous travaillez aussi, elle est particulière, que vous prenez votre temps. Comment ça se passe, une session avec vous ?
Il n'y a pas de règle, c'est toujours différent. Hein. C'est toujours différent. Il n'y a pas de règle précise, ni de recette précise. Je n'aime pas non plus fixer des règles. J'aime bien avoir cette liberté, et selon les journées, selon le temps qu'il fait, selon qui arrive, vous savez, maintenant vous voyez les studios vides, mais quand on travaille, il peut y avoir 30, 40, 50 personnes dans les studios, entre les assistants, les maquilleurs, les coiffeurs, les make-up artists, les manucures.
Oui, bien sûr.
C'est énorme, l'équipe. C'est comme pour le tournage d'un film, presque. Et donc, là, le photographe, il doit être un peu comme un chef d'orchestre qui fait jouer tous les instruments ensemble, et voilà.
Et vous êtes concentré sur quoi ? Sur un moment qui va vous donner envie de faire une photo ? C'est
moi,
trouver le moment ?
Oui, je reste concentré sur la photo, et sur la photo, sur le moment, sur l'émotion que je dois ressentir et faire ressentir. Parce que je pense que pour moi, le moment vraiment excitant dans mon travail est important, c'est au moment où je prends la photo.
Tout
ce qui vient avant ou après, ça n'a pas beaucoup d'importance, les retouches, les choses. L'émotion doit être là au moment du déclic. C'est le pas au moment du déclic, il y aura le spectateur qui après regarde la photo, il n'aura aucune émotion.
Vous parliez d'émotion, c'est vraiment ça le plus important dans votre travail. Vous avez souvent dit que la rationalité, tout ça, ça ne vous intéressait pas, en fait. Que vous le laissiez dehors du studio.
Oui, je pense qu'il n'y a rien de logique, en fait, dans mon travail. La logique, elle ne fait pas partie ni de ma philosophie, ni de mon langage.
Vous cherchez quelque chose de plus poétique, émotionnel ? Qu'est-ce que vous diriez ?
Oui, émotionnel et poétique, oui. Oui, quelque chose qui révèle. La photographie, ce n'est pas une reproduction technique de la réalité, c'est plus une révélation de quelque chose qui flaire presque l'inconnu, l'invisible, voilà.
Et quelque chose...
Une autre dimension, qui flaire une autre dimension.
Oui. Oui, d'ailleurs, vous dites... Vos photos, de toute façon, elles sont, on les reconnaît immédiatement, il y a une signature. Et les gens, quand ils parlent de vous, ils parlent de la lumière, ils parlent du flou aussi, souvent. Vous aimez bien qu'on ne voit pas forcément très bien, que les choses qui sont ambiguës, qui sont... Vous aimez tout ça ?
Oui, j'aime beaucoup m'éloigner de la réalité. C'est ça. Et alors les flous, par la précision technique, ils m'aident à m'éloigner un peu de la réalité, à la reproduire d'une façon plus vague, plus ambiguë, comme vous dites.
Une chose aussi, vous disiez, faire un portrait, c'est révéler quelque chose qu'on a déjà en nous.
Oui.
Parce que vous parlez souvent de ça, et c'est très beau, vous dites, on ne prend pas des photos, on les donne.
Oui, parce que je pense que pour moi, prendre une photo, ce n'est pas encadrer quelque chose de la réalité extérieure et l'amener à l'intérieur de la caméra, c'est plutôt réveiller quelque chose en soi et l'amener à la lumière. Donc c'est plutôt donner que prendre.
Donc c'est toujours un autoportrait.
C'est toujours un peu un autoportrait, oui.
M.
Le goût de M.
Là, vous exposez à Galliera, il y a une monographie qui vous est consacrée. C'est la première fois en France que c'est une exposition monographique. Si vous regardez votre travail sur les 50 dernières années, vous avez l'impression que justement cet autoportrait de vous, il a changé ?
Pas tellement, je trouve pas tellement. Non, l'exposition de Galliera, c'est un peu comme un journal de mes 50 ans de photographie. C'est pas une vraie rétrospective, même s'il y a des photos plus anciennes, des photos plus récentes. C'est un peu un journal de ma vie de photographe. Mais je trouve qu'elle n'a pas tellement, même quand vous verrez l'expo, vous verrez, si vous regardez les dates des photos, vous verrez que j'ai pas beaucoup changé.
Comment vous définiriez-vous votre style photographique?
Pour moi, c'était difficile de définir mon style. C'est moi-même mon style. Pour moi, c'est très difficile d'analyser mon travail. Je n'arrive pas à mettre des mots sur ma photographie, d'analyser pourquoi je fais ça, pourquoi dire ma photographie est plutôt, je ne sais pas, réaliste, irréel. Je n'arrive pas à... J'aime pas analyser mon travail.
Non, vous n'aimez pas tellement analyser les choses, c'est plus les ressentir.
Oui, exactement.
Et du coup, alors, donc, votre... Photographie, c'est votre âme, en fait. Vous la nourrissez, cette âme, en fait. Vous parlez toujours beaucoup des autres artistes, ce qui n'est pas souvent le cas des artistes. Hein. On sent qu'ils ont été très importants, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très importants pour vous, qu'il y a des rencontres qui ont été importantes pour vous, et que vous êtes très amoureux de l'art et des artistes.
Oui, bien sûr, ils étaient très importants pour moi, ils m'ont donné beaucoup, ils m'ont enrichi beaucoup. On n'invente pas des photos à partir de rien. Je pense que les photos sont faites bien. À partir des photos, les livres, ils viennent des livres, la peinture vient d'autres tableaux. Je pense que c'est un chemin qui se suit pas à pas d'un artiste à l'autre. Et donc, moi, il y en a beaucoup qui m'ont influencé, qui m'ont fécondé, qui m'ont fait rêver, voilà.
Mais en ce moment, qui c'est qui vous intéresse, par exemple ?
Oh, c'est un peu toujours... J'ai beaucoup de maîtres. C'est Robert Frank, que j'ai bien connu, c'est Diane Arbus, c'est August Sander, Paul Strand, Nadar.
Nadar qui parle du sentiment de...
De la lumière. J'adore cette formule. Parce que je pense que justement, elle veut dire que la lumière, c'est pas quelque chose qui va traiter d'une façon technique, il faut être traité d'une façon technique ou qui est mathématique, c'est pas une formule, c'est pas une... Il faut pas la réduire en nombre, mais il faut juste la sentir et lui parler et l'aimer et devenir ami de la lumière.
Mais pour être ami de la lumière, il faut être ami de l'obscurité aussi ?
Oui, parce que c'est difficile en fait d'établir la borderline entre la lumière et l'obscurité. Très difficile. La pénombre, que moi j'adore.
C'est vrai ?
Ah oui, j'aime beaucoup la pénombre. Est vraiment entre les deux. J'aime beaucoup la lumière qu'on dit en France entre chien et loup.
Aujourd'hui, vous avez encore envie de faire des photos ? Il y a des photos que vous avez envie de faire, que vous n'avez pas faites ?
Oui, il y en a...
Beaucoup ?
Beaucoup que je n'ai pas fait. Il y en a beaucoup que je n'ai pas fait et j'ai toujours envie de les faire, oui. Je vous dis, il y a cette curiosité. Et je trouve qu'il y a, chez les photographes, il y a quelque chose d'enfantin. J'ai écrit une fois qu'être photographe, c'est une enfance sans fin. Parce que chez les photographes, j'ai toujours remarqué... qu'il y a ce côté enfantin, cette curiosité, cet enthousiasme, comme de jouer avec, Parce que la photographie, au fond, c'est un jeu merveilleux. Cet enthousiasme de découvrir, de regarder. Et ça, c'est dû à la lumière qui change tout le temps, qui nous montre tout le temps les choses d'une façon différente. Et des photographes comme Cartier-Bresson, je me rappelle, je l'ai vu travailler, c'était comme un enfant qui courait derrière un ballon. C'était et vraiment cette curiosité, cet enthousiasme, c'est le mot juste, je crois.
Vous aimez beaucoup d'autres artistes, vous m'avez parlé d'autres photographes aussi. Est-ce que vous sauriez dire ce qui vous attire dans les artistes qui vous plaisent ?
Oui, mais c'est quelque chose qui me touche. Certains poètes, c'était comme si c'était mes frères, tellement ils me touchaient, ils parlaient comme un langage. C'était familier pour moi. Et la même chose, ça m'allait pour certains artistes. J'ai vu, il y a quelques mois, une exposition de Vermeer à Amsterdam, sublissime. Et c'était comme, en regardant ces tableaux qui sont assez photographiques, finalement, et avec cette recherche de la lumière qui rentre de la fenêtre, tout en voyant la fenêtre aussi sublissime, et ces poses à peine comme des petites instantanées. J'ai adoré, mais je connaissais déjà Vermeer, mais les voir un après l'autre comme ça, c'était incroyable. Et c'est comme si, là aussi, il y avait quelque chose de familier, c'est comme si c'était lui qui m'avait appris à certaines photos, qui m'avait suggéré certaines photos. J'ai dit, mais tiens, voilà pourquoi j'ai fait cette photo-là, parce que c'est Vermeer qui me l'a dit, quelque chose comme ça.
Avec qui d'autre vous avez senti ça? C'est intéressant, ça.
Chaplin, sûr. Et puis Fellini, bien sûr, qui me touche les deux énormément aussi.
Et la musique, ça a été important pour vous? Je sais que vous jouez de la mandoline, que c'est très important.
Très mal. Non,
oui,
ça,
mais
ça, pas
dire. Ça a été important pour vous.
Oui, mais je la joue très mal. Oui, j'adore la chanson napolitaine.
Oui.
La musique est très importante pour moi. J'ai eu ma période d'opéra lyrique, d'opéra que j'écoutais énormément. J'allais voir les opéras tout le temps quand j'avais l'occasion. Et...
Ouais.
Maintenant, ça, c'est un peu... J'ai peut-être plus le temps de m'asseoir avec devant et d'écouter une opéra toute entière. Chose que j'aimais beaucoup, beaucoup faire. L'opéra, c'est le théâtre. C'est l'histoire, c'est la musique, c'est le drame, c'est tout, c'est l'ensemble. J'adore Verdi, bien sûr, plus que tout. J'aime aussi d'autres, Puccini, Mozart, mais Verdi... J'ai un fait pour me dire. Voilà quelqu'un d'autre qui me donne l'émotion et qui...
C'est vrai?
Ah, qui me touche, oui. Me fait pleurer, Verdi.
Et ça vous arrive aussi avec des créateurs contemporains, ça, d'avoir des émotions aussi fortes? Là, vous m'avez parlé de Vermeer, de Verdi.
Oui, ça peut m'arriver avec des contemporains, oui. Roscoe, il y a une exposition récente, très forte.
Ça vous parle très immédiatement aussi?
Oui, Roscoe, ça ne parle immédiatement parce que moi, j'estime que la photographie, c'est une forme de méditation. Et Roscoe, c'est l'invitation, un cadeau de méditation vraiment visuelle, extraordinaire.
Vous dites une forme de méditation avec cette idée aussi, du coup, d'essayer de débarrasser toutes les choses. Vous parlez de soustraction, souvent, quand vous parlez de votre photographie. C'est intéressant, cette idée aussi. Il y a un dénuement. Enfin, il faut enlever les choses.
C'est dans ce sens, c'est une sorte de méditation.
Ouais.
On se concentre uniquement sur son sujet, on fait abstraction de tout le reste. Et dans les moments présents, on vit vraiment les moments présents avec une intensité et une consciemment. Je le vis comme ça, je vis le monde en pleine conscience, et avec rien d'autre qui me distrait, rien d'autre que... Ni moi, ni mon sujet. Mon sujet ne doit pas être distrait par rien du tout, il doit être concentré dans ce rapport avec moi.
C'est difficile, ça, d'obtenir ça?
C'est pas toujours facile, parce que ça demande beaucoup de concentration de ma part, et aussi, donc, en conséquence de mon sujet. Moi, je suis plus habitué que lui...
À ça?
À ça, oui.
Ouais. Vous parlez beaucoup avec vos sujets ou pas du tout?
Ça dépend, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles non plus.
Est-ce que vous, il y a un modèle ou une personne que vous avez particulièrement aimé photographier?
Oui, il y en a beaucoup. Il y a Kirsten Owen.
Oui, vous avez beaucoup photographié Kirsten Owen.
Beaucoup, c'était peut-être ma première muse. Il y a Guinevere Vancinos qui a photographié pendant 25 ans, je crois, et je la photographie encore. J'ai photographié beaucoup Natalia Vodianova, j'ai photographié beaucoup Saskia, Audrey Marnet, c'est tous des filles qui ont rempli mon studio et ils m'ont donné beaucoup.
Et pourquoi il y a une relation particulière qui s'établit ?
Mais parce que c'est créé une espèce d'amitié photographique, et avec une confiance réciproque et une envie d'aider l'un l'autre pour arriver à faire une belle photo. C'est vraiment une collaboration amicale et une amitié photographique, dirais-je, c'est la formule juste.
Vous avez toujours aimé rester aussi un tout petit peu à côté, en fait. Par exemple, vous avez toujours beaucoup collaboré avec l'industrie de la mode, mais pas que. Mais vous avez jamais voulu être dans l'époque, être dans le coup, être branché. Vous étiez toujours dans votre temps, votre monde, votre temps à vous.
J'ai toujours vécu toutes ces années de mode en paix, en gardant une certaine distance de ce fleuve qui est celui de la mode, qui est un tourbillon.
Qui change chaque saison,
même tous les trois mois maintenant. Je pense que si on veut être sur la dernière vague, si on veut être branché, comme vous dites, c'est dangereux parce qu'on risque de se faire prendre par le tourbillon et disparaître vite. Se noyer vite, tourbillon.
Et vous êtes resté.
Il vaut mieux rester au bord et garder un peu de distance. Mais je ne l'ai pas fait en calculant de faire ça. C'était instinctif pour moi de ne pas m'immerger.
C'était votre personnalité ?
Oui, je pense.
Est-ce qu'il y a des photos de vous que vous préférez ou pas du tout ?
Oui, oui. Il y en a que je préfère, qui me touchent plus. Il y a des portraits de Guinevere que j'aime beaucoup. Il y a un portrait de Guinevere assis sur ce tabouret-là, qui est une photo que j'aime beaucoup. Il a une chemise de Yogi entrouverte, on voit un sein d'elle. Et il a une expression tellement belle, tellement profonde. J'aime beaucoup cette photo.
Les vêtements, c'est des éléments importants aussi dans cette composition-là.
Toujours les vêtements sont un élément important. Surtout dans une photo de mode, mais dans n'importe quelle photo, les vêtements sont importantissimes. Moi, je pense toujours que la photo de mode, c'est un double portrait. Le portrait d'une femme qui porte un vêtement et un vêtement porté par la femme. Et c'est dans la réussite de cet ensemble qui dépend la magie de la photo de mode.
Oui, et en plus, il y a votre autoportrait à vous par-dessus.
Oui, et en plus, il y a encore votre regard de spectateur qui se reflète encore dessus. C'est un prisme avec plusieurs miroirs et facettes et tout ça, c'est grâce à la lumière.
Vous avez l'impression que le travail de photographe, il a beaucoup changé depuis que vous avez commencé ? Oui, il a beaucoup changé. Il y a des images partout aujourd'hui.
Oui, beaucoup changé. Mais comme le monde entier a changé pour tout.
Hein. Exactement.
Et donc la photographie aussi, avec le digital, avec tous les médias, les fonds, l'Internet, tout ça, ça a beaucoup changé complètement. Les rapports à l'image ont énormément changé. Avant, une photographie, c'était un objet qu'on mettait dans les portefeuilles, qu'on mettait sur la table de nuit, qu'on mettait dans des albums. Maintenant, c'est une image qui flotte sur des écrans. Avant, elle avait une odeur, elle avait un volume, un poids. Maintenant, elle a plus de forme, elle n'a plus rien, elle n'a plus d'odeur. Elle est juste une image qui flotte comme ça.
Et du coup, c'est plus difficile pour que cette image elle soit marquante, pour qu'elle s'imprime ?
Oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile qu'elle n'a plus de présence, en fait. Et ça, pour moi, c'est plus difficile. Ça enlève beaucoup, la photographie, cette absence de l'objet. Et en plus, je trouve qu'il y a une pollution d'images qui est un peu dangereuse. Ouais. Il y a beaucoup d'images qui ne servent à rien, qui sont faites et montrées tout le temps. Et je dis toujours à mes jeunes photographes, attention, c'est une grosse responsabilité de mettre au monde une image. On ne peut pas mettre des images comme ça, tac-tac, partout, et sans réfléchir, sans amour, sans passion, juste comme ça. La photo de mon chat, la photo de mes chaussures, la photo de la...
Oui, oui.
C'est stupide, je trouve. Et je leur dis toujours une phrase de Wim Wenders, que j'aime beaucoup, qui a dit une fois, faisons des images plus belles et nous aurons un monde plus beau.
M, le magazine du monde présente le goût de M.
Je peux vous amener ici dans mon...
Ouais, super. Où est-ce qu'on va, là, Paolo ?
Là, on va dans la pièce où j'écris, où je me retire un petit peu pendant les photographies, quand je fais une pause.
C'est votre bureau ?
Voilà, j'aime pas, c'est mon bureau, mais c'est un peu ça.
Ouais.
Et vous voyez la confusion qu'il y a, c'est impressionnant. Heureusement qu'on n'a pas l'image, parce que sinon ouais. je ne vous l'aurais pas montré. C'est vraiment un désordre total. Voilà, il y a un peu de mes photos accrochées au mur.
Ah, ça c'est Gold Shift, c'est pour égoïste.
Gold Shift pour égoïste, exactement. Et ça, c'est Kirsten Owen.
Vous l'avez faite quand cette photo? Il y a longtemps, ça.
Il y a longtemps. Ça, c'est l'équipe de Bologne.
Où ça, l'équipe de foot?
Oui, qui avait gagné les championnats d'Italie en 1968. Dernière fois, ils l'ont gagné.
Un enfant?
Oui. C'est moi.
Ça, ça c'est vous?
Oui.
Ah oui?
Oui, quand j'avais 8 ans, 10 ans, je ne sais pas.
Ça, c'est une sculpture de vous
Oui, oui.
Une pipe? Vous fumez la pipe?
Non.
Non?
Je fume le cigare.
Et ça, c'est vous?
Ça, c'est moi avec Peter Limmer, mon ami Peter.
Ouais.
J'aime beaucoup cette photo. Tous les matins, quand je rentre ici, elle me met de bonne humeur et un peu de mélancolie aussi. Et ça, c'est l'armoire de la cuisine de ma mère. Elle vient de Ravenne, oui.
Vous l'avez emmenée ici?
Je l'ai emmenée ici, oui. Ça, c'est une table qui était aussi dans ma maison à Ravenne.
C'est vrai, c'est incroyable, vous avez emmené tout ça.
Oui, cette chaise aussi. Elle vient de Ravenne. Ça, c'est ma table d'étudiant quand j'étais étudiant à Ravenne.
Elle est très lourde.
Très lourde.
La table, elle est très belle.
Oui.
Oui.
C'est pour ça que j'ai l'emmené ici.
Et ça aussi, vous avez voulu toujours le garder, alors.
Ah oui, oui. Ben, vous avez dit que je suis nostalgique. C'est ça, la nostalgie. La mort de la cuisine de ma mère.
On n'est pas chez vous, on est dans votre studio, c'est un peu comme votre maison aussi. Vous vivez ici depuis 30 ans, enfin vous venez ici depuis 30 ans. Quelle relation vous avez avec les objets, vous? C'est important ou pas du tout pour vous?
Très important, très important. C'est pas des fétiches, mais par exemple, toute la rangée des chaises et des tabourets que vous voyez là-bas, c'est tous des tabourets de chaises que j'ai ramassé dans la rue et que j'amène ici. J'ai fait une petite collection.
Pourquoi ça vous plaît de les ramasser, justement?
Ça me plaît. J'aime bien ce côté hasard, un peu comme ça.
Oui, parce que la ville charrie et vous ramassez des choses.
Voilà. Oui. Et je l'amène ici et j'assois sur ces chaises et sur ce tabouret les plus belles filles du monde, les grandes actrices et tout. Et ça me plaît, ce côté. Peut-être cette chaise était dans la cuisine d'une femme ici, dans la rue, je ne sais pas. Et maintenant, elle est la chaise de Naomi, ou Naomi Campbell, ou de Natalia Vodanova et tout. Ça me plaît. Mais tout, mon pied, tout. J'ai fait un livre qui s'appelle Studio, où j'ai photographié ma caméra, mes chaises, mon fond et tout, parce que j'ai fait devenir mes objets, mes outils de tous les jours, les protagonistes des photos et du livre. J'ai fait les portraits de ma lampe, et voilà.
Alors vous disiez, c'est pas un rapport fétiche, mais vous aimez bien quoi? Les objets justement qui ont une histoire, qui ont une valeur émotionnelle, c'est quoi qui vous intéresse dans les objets?
Oui, qui ont une histoire, oui.
Qui transportent quelque chose avec eux.
Voilà, qui ont quelque chose, qui ont une âme en fait. Voilà.
C'est ça que vous recherchez, pas le truc de designer ou...
Non, pas du tout.
Pas du tout. Les livres, c'est des objets qui sont très importants pour vous. Vous avez
une
bibliothèque.
Qui ont une âme aussi. Ouais. C'est plus facile pour un livre avoir une âme que pour un tabouret, en fait.
Mais quoique.
Quoique. Mais oui, j'aime beaucoup les livres. J'ai vu vraiment entouré de livres. J'ai beaucoup de livres de photographie, une grande collection de livres de photographie, mais aussi des livres de littérature, des livres sur la peinture, des livres d'art.
Et vous regardez les livres des autres photographes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des images, qui disent « Oh non, moi je ne regarde pas les autres ». Vous regardez, vous
bien
nourrissez.
Bien sûr, je regarde et j'apprends, bien sûr. Je pense que c'est très important de regarder les livres des grands maîtres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne fait pas les photos à partir de rien.
Vous regardez aussi la photographie, la jeunesse, la photographie contemporaine?
Oui,
ça vous intéresse?
Ça m'arrive, je regarde, oui. Je regarde pas trop Instagram, quand même. Je suis pas un fan d'Instagram, je vous le dis franchement.
Parce que c'est...
Parce que je trouve, comme je vous
dis... Il n'y a pas de responsabilité.
Oui. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de joie, je trouve. Il n'y a pas de joie de la photographie.
Vous m'avez dit les objets, c'est important. Et les vêtements, c'est important pour vous ou pas? Pour vous-même?
Pas trop, non. Je ne suis pas un fan de la mode, hein, une bête de mode.
Non ?
Non.
Vous aimez quoi, vous ?
Oh, j'aime bien les chemises simples. Et...
Vous avez une chemise en jean, là, très belle.
Oui, chemise en jean, oui. C'est très simple.
Pratique.
Pratique.
Vous avez l'impression qu'au cours de votre vie, ce que vous aimez, ça a beaucoup changé ou pas ? Ou que vous aimez toujours la même chose que quand vous étiez adolescent, enfant, et que ça a fait que grandir ?
Il y a les deux. Il y a des choses qui sont restées les mêmes et d'autres qui ont changé beaucoup. Par exemple, mon équipe de Bologne, de football, je l'aime toujours. Et d'autres choses que non, que j'ai changé complètement de goût et que je me dis, mais comment je pouvais aimer ça ? Mais ça m'arrive même en photographie, hein, que j'ai pris des... Que, quand j'étais jeune, j'aimais certains photographes que maintenant, j'aime pas du tout et que je trouve vraiment pas bien.
Mais est-ce qu'il y a des gens que vous n'aimiez pas et que vous avez appris à aimer plus tard aussi ?
Oui,
ça,
oui,
ça arrive aussi.
Oui, même pour la musique, j'ai changé de goût pour la littérature, j'ai changé de goût dans les cours de ma vie.
Qui c'est que vous aimez en musique, par exemple ?
En musique rock, Johnny Cash. On l'a beaucoup joué ici.
Ah oui ?
Parce que mon ami Robert Franck, un jour, est venu dans mon studio à New York où j'ai travaillé. Il m'a amené un album de Johnny Cash que j'ai mis tout de suite. Et je suis tombé amoureux fou de Johnny Cash.
Pourquoi ?
Ah, mais la voix et le mot. Give my love to Lord, we want to Mr. Daddy.
Ouais. Donc vous écoutez quoi en travaillant ? Johnny Cash et puis quoi d'autre ?
Johnny Cash et puis après on peut changer quelque chose d'opéra. On peut venir à des musiques de Nino Roth, de Fellini. Après on varie. Après Pink Floyd, on l'écoute pas mal.
Paolo, dites-moi, quel type de goût vous plaise ?
Les pâtes, c'est sûr. Les pâtes, c'est sûr. Mais je suis italien, j'ai grandi avec des pâtes. Et j'aime bien les pâtes, mais j'aime bien la mer. Bon. La mer est très importante pour moi. J'aime la lumière, plus que tout. Et après, je peux vous dire autre chose, mais ça me fait pleurer. Vous savez, je pleure souvent.
C'est vrai ?
Ah oui.
Vous êtes émotif ?
Très.
Il y a des choses que vous détestez, vous, ou vous ne détestez pas les choses ?
En général, je déteste pas vraiment, non. Je déteste pas vraiment. J'ai pas cette...
Pas cette énergie-là à
pas
perdre.
Pas cette énergie de haine et de détester les choses, non. J'essaie de pas être négative et vraiment... Parce que je suis balance, et les balances, apparemment, elles aiment pas les conflits. Et j'aime pas me mettre en conflit avec des choses, en les détestant ou en les refusant. Ou...
C'est Guy Bourdin qui vous avait dit que balance, il aimait pas ?
Oui.
Quand vous aviez été pour être son assistant.
Il m'a demandé, mais tu dis que c'est une balance. J'aime pas les balances.
Est-ce que vous, Paolo, vous diriez que vos amis, c'est des gens qui ont du goût ?
Bon, si je connais des gens qui n'ont pas beaucoup de goût, je ne continue pas beaucoup longtemps à les fréquenter.
Ah, c'est important.
Oui, c'est important. Oui. Qu'ils soient raffinés dans les humainement, et voilà, qu'ils soient un peu de classe, quoi, des vies, et qu'ils ne soient pas... Mais la chose que j'aime le moins, voilà, c'est vous dire, il y a quelque chose que je déteste, c'est la vulgarité. Voilà, ça, j'aime pas tout, mais j'aime beaucoup la vulgarité. Elle me gêne beaucoup.
Vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût, c'est possible ou pas pour vous ?
Quand je tombe amoureux, je regarde face à rien. Oui, et quand je tombe amoureux, on tombe.
C'est ça. On ne contrôle plus rien. C'est fini, on est tombé.
Voilà, on est tombé. Après, c'est trop tard pour parler des goûts, je ne sais pas quoi.
C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention avant.
Oui, il faut faire attention avant, c'est vrai.
Et alors, ça serait quoi pour vous, Paolo Roversi, avoir du goût ? Qu'est-ce que vous mettez dans ce mot-là ?
C'est dans le cœur ou dans l'âme ou dans le sang, je ne sais pas.
Ouais, dans l'âme.
Dans l'âme, je crois.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et de Johanna Seban. Le Goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du Monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.